Bonjour Florence Monnet.
Bonjour Marianne, ça va bien?
Ça va très bien vous-même?
Oui.
Alors, une nouvelle qui a retenti pour commencer vraiment beaucoup dans les médias dans les derniers jours et qui a comme genèse cette tempête de pluie verglaçante de janvier 98 dont on a entendu parler beaucoup, qui a touché 3 millions de Québécois pendant 45 jours. Et il y a une équipe de chercheurs de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et de l'Université McGill qui a eu envie de profiter de ce moment-là pour étudier les effets du stress sur les femmes enceintes, leur grossesse et leur enfant à naître. Ça donnait quoi comme résultat 13 ans plus tard?
Ce qu'il faut dire, c'est que cette étude-là est en cours depuis des années et donc elle a déjà produit des résultats. C'est ce qu'on appelle en effet, comme tu l'as mentionné, le projet Verglas. Pendant 45 jours, donc, des gens étaient plus ou moins privés d'électricité et des femmes enceintes parmi ça. Et l'idée, c'était donc de voir si le stress maternel avait un effet sur le fœtus, sur son profil génétique en particulier. Et la semaine dernière, donc notre équipe, et là on parle du Douglas et de McGill évidemment, a sorti un article qui a eu du retentissement, comme tu l'as mentionné, et qui montre que, dans le fond, on détectait une signature distinctive, génétique distinctive chez les enfants dont les mères ont été privées d'électricité pendant plusieurs jours. Donc il y avait un impact sur le profil épigénétique de l'enfant né d'une mère qui avait souffert d'un stress maternel pendant le verglas. Alors ça, évidemment, ça ouvre la porte à tout un pan de réflexion sur l'impact que le stress, et pas juste dans le cas du verglas, mais dans bien des situations de stress, peut avoir sur le fœtus. Ça ouvre toute une réflexion sur comment protéger la mère dans des conditions difficiles, quoi.
Est-ce que l'on sait, c'est vraiment le stress vécu par la mère et pas tant la différence de climat qui a amené des modifications?
C'est vraiment le stress objectif. C'est ça que cette étude-là a montré. C'est pas le stress perçu non plus. Si une femme se sentait stressée, mais c'est les conditions dures qu'elle a vécues. Alors évidemment, il faudrait voir dans d'autres conditions de stress, je sais pas moi, un tremblement de terre, si ça peut se reproduire. Mais dans ce cas-là, c'était vraiment vérifiable.
Mais qu'est-ce que cette étude-là amène d'extraordinaire? C'est de voir des femmes dans d'autres pays qui vivent en climat de guerre constant. Qu'est-ce que ça pourrait également amener sur leur fœtus, sur leur grossesse, sur les enfants de leur famille, également tous les effets sur la santé. Il y a de ça qui est formidable dans cette étude-là.
Tout à fait. On peut dire que le monde entier est un champ d'études incroyable, surtout en ce moment avec tous les conflits qu'on peut vivre. Le docteur Susan King s'intéresse depuis longtemps justement à cet aspect-là, à savoir l'impact du stress auprès des femmes et surtout de leurs enfants. Quoi.
Est-ce qu'on connaît l'effet sur la santé de ces enfants-là qui ont vécu la crise de verglas?
Je ne veux pas trop m'avancer parce qu'il y a des études qui sont en cours, mais c'est un champ qui est actuellement à l'étude et on devrait avoir des résultats intéressants, en particulier sur les questions comme l'asthme, par exemple, qui aurait un lien avec le stress de la mère.
Asthme, diabète, obésité, on lisait ça, mais c'est à suivre. Donc, projet Verglas mené par l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, dont vous faites les relations médias et la direction des communications, Florence, et l'Université McGill. Également, on voulait parler ensemble, Florence, de ce programme de l'école Mini-Psy mené par Douglas, qui débute, si je ne me trompe pas, mercredi prochain, 15 octobre.
Exactement. Alors, ce que c'est Mini-Psy, c'est une série de conférences qui s'adressent au public. Vraiment, c'est l'idée d'avoir des gens de haut vol, hein, intellectuellement, qui sont capables de vulgariser comme il faut des questions qui touchent au bien-être psychique des gens. Et comme vous le disiez, ça commence le 15 octobre avec une première conférence, une série de quatre. Hein. Le premier thème, c'est Camille Ozakia qui va l'animer. Donc, c'est notre psychologue en résidence ici au Bureau d'éducation en santé mentale. Et le sujet, c'est Santé mentale 101, trouver le nirvana dans une tasse de café et autres secrets du bonheur.
Assez accrocheur.
Oui. Ensuite, ça va être suivi le 22 octobre d'un sujet qui, moi, personnellement, m'intéresse beaucoup. C'est quand les valeurs du travail nous envahissent. Ouais. Et c'est donné par Michel Perrault, qui est psychologue et chercheur ici au Douglas, et qui a également écrit un livre et qui est vraiment ferré dans cette question, à savoir comment délimiter notre terrain personnel, privé, et comment ne pas laisser le travail nous envahir, ce qui n'est pas toujours évident, on peut s'entendre là-dessus. Là.
Ouais.
Ensuite, on aura le 29 octobre un sujet qui est particulièrement intéressant au Québec, où beaucoup de gens vivent seuls.
Avec nul autre que Rosemarie Charest.
Exactement. Wow. Et sur la solitude, est-ce que c'est un fardeau ou une amie? Donc ça, c'est aussi assez intéressant comme sujet, je dois dire.
Ah, j'ai trouvé ça formidable. Je l'ai même noté. Cette discussion-là, vous allez en profiter pour faire la différence entre l'isolement, le vide et la solitude. C'est vrai qu'on ne départage pas tant ces trois termes-là. Et si cette discussion amène une lumière sur ce questionnement-là, ben, ça a quelque chose de fort intéressant.
Je pense que beaucoup de gens vont se sentir interpellés par le sujet.
Ouais.
Et on va clore le 12 novembre avec un sujet qui touche à la nutrition. C'est retrouver le bien-être en renouant avec le corps et l'assiette. Donc, on a Jody Richardson, qui est psychologue et cofondatrice de la clinique Change. Mm-hmm. Et Vanessa Perron, qui est une nutritionniste de la même clinique, qui vont venir donc nous entretenir de ça. Alors, ça pourrait être intéressant. Et on a jusqu'à donc vendredi 17h, je le note, un 2 pour 1 pour le prix d'inscription. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous amenez un ou une amie ou un membre de votre famille et ce sera gratuit pour cette personne. Alors, allez sur le site du Douglas et vous verrez, on vous guidera pour vous inscrire.
www.douglas.qc.ca, ouvert à tous. Ça peut également se faire en web diffusion, Florence, l'école
Nipsi. Exactement, on a une formule web diffusion également. Donc, vous voyez, c'est flexible, mais c'est sûr que ça vient en groupe de 4 conférences, dans tous les cas.
Mm-hmm. OK, d'accord. À suivre, mais vraiment des discussions fort captivantes que vous annoncez là. Également, ben, vous aviez l'humeur à la fête hier, Florence, parce que c'était le soulignement de l'anniversaire du 70 ans des AA qui a débuté à Douglas. Je ne savais pas ça.
En fait, les AA du Québec, hein, c'est de ça qu'on parle, parce que les AA américains existaient avant. Mais c'est, en effet, c'est au Douglas que c'est né, que ça a été introduit. Dans les années 40, il y avait un patient qu'on appellera Dave B, qui était un cas très lourd, quelqu'un qui avait des gros problèmes de dépendance à l'alcool et qu'on avait jugé plus ou moins incurable, vraiment mal barré, comme on dirait au Québec, et qui a rencontré dans les jardins du Douglas un jeune psychiatre, Travis Dancy, qui lui a présenté, qui lui a donné le livre des AA. Alors, la petite histoire veut que l'homme l'aurait d'abord jeté, l'aurait rejeté, avant de le reprendre puis de le dévorer. Et c'est cet homme-là, ce Dave A, qui a non seulement transformé sa vie avec les AA, mais qui les a introduits ici, qui tenait des réunions dans un sous-sol. Et aujourd'hui, rien qu'à dans la région de Montréal, il y a 12 000 membres des AA. Alors en effet, hier, on avait une petite cérémonie, une plaque commémorative. On a parlé de tout ça. C'est quand même un mouvement qui aide encore beaucoup, beaucoup de monde. Un mouvement d'écoute, de solidarité, où on ne juge pas et qui aide les gens à rester sobre un jour à la fois.
Oui, on peut dire que ça a fait des petits un petit peu partout, là, si on parle de 12 000.
Oui, en effet. Et là, je parle seulement pour Montréal, parce qu'il y a dans 4 régions du Québec qui sont implantées. Donc, il y a des pôles un peu partout et c'est ouvert à tous. Ça se multiplie. Puis, je pense qu'on peut dire que ça a bien vieilli.
Oui, une belle fierté à souligner, en effet, Florence. Et ben, pour terminer, c'est la semaine de la sensibilisation à la santé mentale. Ça a débuté le 5 octobre dernier. Ça se poursuit, oui, se poursuit jusqu'au 11 octobre. Vous avez célébré ça à votre façon au Douglas, Florence?
Oui, on a toutes sortes d'activités, mais surtout, je vous invite à venir sur notre site Internet et aussi notre page Facebook. Vous verrez, on a des blogs, on a des nouvelles, des tas de choses qui peuvent vous informer sur des aspects de la santé mentale au sens large qui touchent tout le monde. Ça peut être des problèmes alimentaires, ça peut être un coup de déprime avec l'arrivée de l'automne. Donc, on a des tas de petits conseils. N'hésitez pas à venir nous voir.
Florence Monnet, je rappelle, vous êtes aux relations avec les médias et direction des communications affaires publiques à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Merci beaucoup. On se retrouve dans un mois.
Merci. Au revoir.